L'économie des États-Unis n'est pas en récession économique. Du moins, pas encore. Démonstration. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Top Gun. J'ai enregistré cette vidéo avant de partir en vacances. Je suis en vacances jusqu'au lundi 19 août, les amis, mais je vous ai préparé quelque chose de concret, de solide. Depuis la publication du taux de chômage en hausse à 4,3% de la population active aux États-Unis, le dernier rapport NFP, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu tout et n'importe quoi. L'économie américaine n'est pas en récession. Ou du moins, admettons une argumentation en faveur d'une récession. Qu'elle soit basée sur davantage qu'un chiffre. Donc moi, dans cette vidéo, eh bien, j'ai fait ce boulot. Vous allez voir, on va passer en revue une bonne vingtaine d'indicateurs macroéconomiques que j'ai mis dans des catégories, que j'ai même notées. Pour chacune de ces stats, j'ai mis une note. 0, 0% de proba. 10. De notes de 1 à 10, 10, 100% de probabilité de récession. J'ai fait des moyennes. Voilà, les amis, je vous ai préparé tout ça. On va bien sûr aussi mettre à jour l'analyse technique sur les obligations, où nous sommes dans ce scénario haussier que je défendais depuis longtemps. Le marché action va-t-il se stabiliser? À quel prix? Quel support? On va regarder tout ça. Faut-il buy the dip? Bon, mais l'économie américaine n'est pas en récession. Nous verrons. Alors, ok. Si la mise à jour du prochain rapport NFP, début septembre, le premier vendredi de septembre, mise à jour du rapport NFP, ce rapport qui rassemble les statistiques américaines sur le marché du travail. Si le taux de chômage nous fait encore un tic à la hausse, genre 4, 4, 4, 5, 4, 6, ok, d'accord, alerte, alerte, rouge. Mais nous ne sommes pas là. Pour le moment, tout démontre que cette hausse du taux de chômage à 4,3 repose sur des phénomènes saisonniers conjoncturels. Donc on va regarder en détail ce marché du travail américain. Mais pas que le marché du travail. Une économie en récession, une économie comme les États-Unis, première économie mondiale. Je comprends que ça stresse parce que contagion au monde occidental, au bas mot. C'est une économie de service. Il n'y a pas d'alerte dans le secteur des services. Zéro alerte. Ça crée même un max d'emplois. Oui, il faut regarder en détail. Moi, je suis allé voir derrière cette hausse du taux de chômage où le chômage a augmenté. Dans quel secteur? Dans les services? Rien. Même tous les secteurs clés de l'économie américaine continuent de créer des emplois. Peut-être que ça va changer. Mais pour ça aussi, eh bien, il faut regarder la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, le commerce des États-Unis, le prix des matières premières, les modèles de probabilité de récession, les secteurs immobiliers. J'ai tout regardé. Enfin tout. J'ai une sélection pour tout. Donc c'est parti, nous passons en revue l'ensemble de ces éléments. L'économie américaine n'est pas. Alors j'ai mis pour faire plaisir à tout le monde, encore avec un point d'interrogation entre parenthèses, parce qu'il faut être. Il faut être. Humble face à la bourse, humble face au marché, humble face à la macroéconomie. Et donc j'admets que j'étais le premier à mettre en avant dans mes émissions depuis des mois la hausse du taux de chômage aux États-Unis, en expliquant que cela accélérerait le pivot de la Fed. Et de là à envisager une récession, c'est autre chose. Moi je pense encore que le pivot de la Fed se fera pour la bonne raison, à savoir la désinflation. La dégradation relative du marché du travail américain a relancé le débat sur la probabilité d'une récession économique aux États-Unis et un sell-off a eu lieu sur les actifs risqués en bourse. Tout le monde a vu indice boursier crypto et forte hausse des obligations en tant qu'aspect refuge. Mais une étude en profondeur de la situation macroéconomique des États-Unis montre que la récession est encore loin, même si certaines alertes, n'oubliez pas le Z, orange, commencent à sonner. Alors, quelle est exactement la probabilité d'une récession américaine pour fin 2024-2025? Et où en sommes-nous maintenant? Partie numéro 1, qu'est-ce qu'une récession économique? Partie numéro 2, quelles sont historiquement les conséquences d'une récession économique sur le marché action? Partie numéro 3, les données disponibles pour évaluer une récession économique potentielle. Partie numéro 4, les alertes économiques orange sonnent. Partie numéro 5, obligations point technique et aussi le marché action, sauf que j'ai oublié de le mettre dans le plan. On fera aussi le marché action. Ah bah si, il est là, voilà. S&P 500, indice européen, point technique. J'avais juste oublié de cliquer sur l'animation. Définition d'une récession économique et les récessions économiques depuis 1929. Alors je vous ai mis en haut à droite, les données viennent de la Réserve fédérale de Saint-Louis, l'ensemble des récessions économiques des États-Unis depuis 60 ans. Alors il y a avant 1970, hein. Là vous avez notamment les images très tristes de la Grande Dépression. Là, alors, 1929-1933, c'était une dépression économique. Faut bien comprendre une chose, une récession économique, c'est différent d'une dépression économique. Une récession économique technique, c'est deux trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif du PIB, un taux de variation, pardon, négatif. Alors déjà, première chose, est-ce que vous avez regardé où en est l'évolution trimestrielle du PIB américain? Il a récemment été mis à jour pour le T2. Alors, nous allons regarder où on est justement ce premier chiffre qui compte. Voilà sous vos yeux l'évolution du PIB américain au rythme trimestriel. Les 2,8 ont été mis à jour il y a 10 jours. Il n'y a même pas, l'économie américaine n'est même pas en récession. Il y avait eu un début de récession technique en 2022, qui avait tout de suite été effacé. Donc, si vous voulez, ok, très bien, le taux de chômage, alors, la tendance n'est pas bonne, attention. Moi, dans mes Top Gun, ça fait des mois que je dis, regardez la tendance du taux de chômage. Maintenant, c'est ce pic, cette soudaine hausse à 4,3 qu'interroge. Et vous allez voir, en fait, que derrière cette hausse à 4,3, ce sont surtout des phénomènes saisonniers conjoncturels. Pour le moment. C'est-à-dire, ce sont des licenciements temporaires. Ça correspond à ce qu'on appelle le chômage technique en France. Et donc, ce sont des emplois qui sont amenés à être réouverts. Pour le moment, c'est ça. Alors, les choses peuvent devenir différentes si effectivement, le prochain rapport NFP du mois de septembre nous montre une hausse du taux de chômage au-dessus des 4,3% de la population active. Là, on va commencer à s'interroger. Mais si vous regardez en structure, dans la mise à jour, je suis sur le site là du ministère du Travail des États-Unis, la BLS. Si vous regardez la mise à jour du dernier rapport NFP, regardez le secteur des services. L'économie américaine est une économie de services à 80%. 19,5% l'industrie, 0,5% l'agriculture. Les services, ça crée un max d'emplois. Il n'y a aucune destruction d'emplois dans les services. Tant que vous avez des créations d'emplois dans les services, il n'y a pas de récession. Là, ce n'est qu'un indicateur, hein, puisque je vais vous en montrer plein. Les slides arrivent, on prend notre temps. J'ai fait un truc construit, je l'enregistre avant de partir en vacances. Là, vous me regardez, mais en fait, je suis les pieds au bord de la piscine, au fin fond de la Bourgogne. Mais on va passer en revue tout ça. Toutes ces statistiques que j'ai mis dans des catégories. Je vais vous expliquer ce que c'est hard data, soft data, modèle combinatoire, data transversale. J'ai mis des notes. Et là, j'ai mis des probas de récession. Bon. Donc, on va tout de suite qu'on n'y est pas. Mais on va les prendre tous un par un. On a le temps. Même moi, vous savez, je suis en train de me regarder. Là. Je dois être au bord de la piscine, en train de me balader dans la forêt. Et puis, je regarde ma vidéo. Ou pas. Bon. Alors, oui, donc on continue. Donc, voilà. Il ne faut pas utiliser à la légère le mot récession économique, dépression économique. Dépression économique, récession économique, ce sont déjà des choses qui sont extrêmement tristes socialement. L'économie américaine en a connu un certain nombre, vous avez mis ici les données. Donc, prudence. Toutes les récessions économiques majeures ont généré un crash boursier. Soyons clairs, toutes les récessions économiques majeures ont généré un crash boursier avec des réactions immédiates, parfois pas forcément immédiates, mais fortes de l'État à travers la politique budgétaire, de la banque centrale à travers la politique monétaire. Vous avez ici les grandes périodes de récession et dépression économique qu'ont connues les États-Unis, avec en rouge l'impact sur le S&P 500. La grande dépression de 1930-1933, moins 80% sur le S&P 500. La récession post-seconde guerre mondiale, moins 19%. La récession après la guerre de Corée, moins 16%. La récession de lutte contre l'inflation aux années 57-58, moins 20%. Encore une, moins 10%. La récession de la lutte contre l'inflation, ça c'était le choc pétrolier, non, moins 33%. Le choc pétrolier, moins 48, moins 27, récession de la guerre du Golfe, moins 18, récession de la bulle spéculative dot-com en 2001, moins 50, récession de la grande crise financière, la crise des subprimes, moins 58%, et la récession du Covid, moins 32. Donc effectivement, en récession économique réelle, donc ce sont des périodes, ici, où le taux de variation du produit intérieur brut sur au moins une année était négatif. Où le taux de variation du produit intérieur brut réel sur une année était négatif. Cela a d'abord commencé par une récession technique, avec deux trimestres consécutifs de taux de variation négatif. Je viens de vous montrer, mais on va le reprendre. Lorsqu'on va regarder mes 25 indicateurs. Actuellement, il n'y a même pas de récession technique. Alors, on verra à la mise à jour du troisième trimestre. Sauf que le chiffre du troisième trimestre, il va être publié en septembre. Non, en octobre, pardon. Donc oui, c'est ça. On verra bien s'il est négatif. Entre-temps, on a beaucoup de data mensuelle et on a le prochain rapport NFP. Il y a aussi les indicateurs avancés, enfin il y en a beaucoup. Donc c'est ce que nous allons regarder. Mais effectivement, c'est un sujet parce qu'en vraie récession, les actifs risqués sont en souffrance. Quelle est la probabilité actuelle d'une récession aux États-Unis? Alors, si vous voulez, il y a deux façons de faire. Soit, voilà, je constate ce qu'ont fait beaucoup de monde, en fait, c'est beaucoup ont tricoté autour de cette hausse du taux de chômage, sans même aller creuser le marché du travail. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà creuser, enfin creuser un peu plus que de ce qu'a fait la Doxa, le marché du travail, mais il n'y a pas que le marché du travail. Pour avoir un diagnostic macro sur l'économie américaine, je vous propose de vous tourner vers ce qu'on appelle les hard data. Qu'est-ce que c'est une hard data? C'est pas du vent, c'est par exemple la production industrielle. Nombre de voitures, quantité d'acier produit, nombre de machines-outils. Voilà, c'est pas du vent. C'est hard data, soft data, tous les indicateurs avancés basés sur les sondages au sein d'acteurs économiques clés. Les modèles combinatoires, des modèles de probabilité de récession, des data transversales, prix des matières premières, prix du pétrole. En récession, le pétrole a toujours chuté. C'est vrai qu'il a été sous pression, le pétrole, malgré la géopolitique. On peut se poser la question, justement. Bon. Ok, donc c'est ce dont ce sont l'ensemble des chiffres que nous allons reprendre ensemble. Au stade actuel, l'économie américaine n'est pas en récession, mais des alertes oranges sonnent. Voilà donc l'ensemble, voilà, voilà l'ensemble des données que nous allons regarder. Pour les hard data, nous allons regarder les ventes dans l'immobilier résidentiel ancien, les permis de construire immobilier, les suppressions d'emplois chaque mois, les job cuts, les ventes au détail qui évaluent la consommation des ménages. Je vous rappelle que la consommation des ménages, c'est 70% du PIB américain. La production industrielle, le nombre de faillites d'entreprises par mois, le PIB trimestriel, le pourcentage de chômeurs supérieur à 27 semaines, le taux de chômage. Vous voyez que pour chacune des statistiques, j'ai mis une note. Par exemple, le taux de chômage est mis 7, ça veut dire que le taux de chômage nous indique qu'à 70%, il y a une récession. Oui, mais il n'est pas seul. Par exemple, les suppressions d'emplois, les job cuts, donc les suppressions d'emplois fermes, pas temporaires, elles sont en chute libre. Donc il n'y a pas de récession selon les job cuts. J'aurais même dû mettre 0, mais j'ai mis 1 parce que je dis que je notais de 1 à 10. Donc déjà là, on a deux statistiques de l'emploi qui se contredisent. Enfin, qui se contredisent. Non, parce que nous savons que la hausse du taux de chômage à 4,3 est, pour le moment, encore une fois, liée à un phénomène saisonnier, qu'on appelle en France le chômage technique. Enquête ADP, taux de séparation par État. Ensuite, soft data. Nous allons regarder le PMI manufacturier de Markit, la confiance des promoteurs immobiliers, le PMI manufacturier de l'ISM. Alors, aux États-Unis, c'est surtout l'ISM qui est respecté. Le PMI des services de Markit, le PMI des services de l'ISM, les anticipations de bénéfices. Les modèles combinatoires, quatre modèles de probabilité de récession. Le modèle du Conference Board, l'US States Coincident Indexes de la Fed de Philadelphie, le Real Time Real Salary Recession qui a fait couler beaucoup d'encre, la règle de Sam, le Smooth US Recession Probabilities de la Réserve fédérale de Saint-Louis, et ensuite, dans les données transversales, j'ai mis les taux d'intérêt, le prix des matières premières et les données d'inflation. Oui, parce que, voilà, ça désinflationne. Moi, vous savez, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet, en expliquant mon optimisme pour les prochaines mises à jour de l'inflation septembre-octobre, qui devraient permettre un pivot de la Fed pour la bonne raison. Mais effectivement, derrière cette baisse de l'inflation à venir, et notamment Trueflation qui s'est effondrée, certains disent, oui, ben, vous voyez, c'est un indicateur de récession. Effectivement, dans toutes les récessions, il n'y avait pas dans la grande majorité des récessions, l'inflation venait à zéro, voire même on était en déflation. Donc voilà, ça, chacun interprète ça comme il veut. C'est pour ça qu'il faut creuser le sujet et avoir une méthodologie. Et donc, ne pas regarder qu'une data, mais regarder des hard data, des soft data, des modèles combinatoires, des data transversales, en faire une moyenne, et voilà, et avoir une vision plus analytique des choses, plus globale qu'un simple taux de chômage. Si le taux de chômage est à 10%, je suis d'accord. Récession, même à 7. Mais là, pour l'instant, il est passé de 3,5 à 4,3, et c'est cette hausse de 3,5 à 4,3 qu'interroge. Est-elle conjoncturelle ou structurelle? C'est la question. Alors ben c'est parti, on se les fait tous. Ils sont, alors je les ai tous mis là, hein, donc nous allons passer. Et puis je vous ai mis les. Alors déjà, commençons par le commencement. Commençons par. Alors est-ce que ça s'ouvre? Voilà, hop. Nous commençons par les ventes dans l'immobilier ancien. Alors, effectivement, la tendance n'est pas bonne. Là, pour le coup, c'est pas bon. Là, vous aviez la chute, la crise financière, la chute du Covid. Nous sommes revenus sur des niveaux inférieurs au choc du Covid. Donc, effectivement, les ventes dans l'immobilier résidentiel ancien, c'est pas exceptionnel. J'ai mis une probabilité. Là, j'ai mis une mauvaise note en termes de probabilité de récession. Ensuite, dans l'immobilier, vous avez aussi les permis de construire. Là, c'est vraiment très important. C'est un des meilleurs baromètres avancés du secteur immobilier. Et nous sommes, alors, revenus à peu près au niveau du monde d'avant le choc de la crise sanitaire. Nous ne sommes pas en effondrement, nous sommes dans une partie basse. Alors, on peut comprendre que le secteur immobilier soit mis sous pression par les taux d'intérêt qui sont hauts, pardon. Mais encore une fois, ensuite, lorsque vous regardez l'emploi dans le secteur immobilier, lui, il est tout en haut. C'est-à-dire que le secteur immobilier, dans ses chiffres absolus, est plutôt en zone basse, mais il n'y a pas encore de destruction d'emploi dans le secteur immobilier. Là, ce serait, puisque le secteur immobilier est très en avance sur l'économie réelle, s'il commençait à y avoir des destructions d'emplois massives dans le secteur immobilier, on pourrait s'inquiéter. Donc, les chiffres de l'immobilier sont bas, mais c'est en lien avec la remontée des coûts de financement. C'est pareil en France, par exemple, et en Europe occidentale. Les ventes ont chuté partout. Il n'y a pas eu pourtant une explosion du chômage dans le secteur de l'immobilier. Le secteur est en ralentissement, il est bas à cause des coûts de financement, mais il ne détruit pas encore d'emplois. Donc, c'est pas, même si les chiffres sont moyens, on ne peut pas parler de récession. Alors ensuite, le taux de chômage, ok, très bien. Le taux de chômage, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va le reprendre. Donc vous avez déjà le nombre de chômeurs en millions. Effectivement, la courbe n'est pas bonne. La tendance n'est pas bonne. Et voilà, beaucoup comparent avec ce qu'on avait eu en amont de la crise financière de 2008. Alors, est-ce qu'on est au début de ça ou est-ce que ça va se raplatir? C'est la grande question que tout le monde se pose. En récession économique réelle, vous avez des licenciements secs massifs, car les entreprises ont peur pour leurs marges, vendent moins, et donc elles se débarrassent de leurs salaires pour baisser les coûts et maintenir leurs bénéfices, amortir le choc. Regardez cette statistique des suppressions d'emplois secs fermes aux États-Unis. Ça s'effondre. S'effondre. On est tout en bas. Il n'y a aucune. C'est mis à jour chaque mois. On verra la prochaine mise à jour. Il n'y a aucune alerte de marché. Les entreprises ne licencient pas massivement. Ça, vous comparez ça à cette hausse du taux de chômage avec les job cuts au plus bas, c'est la démonstration que cette hausse du taux de chômage pour l'instant est conjoncturelle. Ce n'est pas du licenciement structurel ferme. Ça reste du chômage technique. Ça va peut-être changer. Effectivement, si là ça se met à monter, monter, monter ces prochains mois, on va s'interroger. Pour l'instant, je dis il n'y a pas d'alerte. C'est tout ce que je dis, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de récession. Je fais une démonstration pour dire qu'actuellement, il n'y en a pas. Je parle du présent. Le futur, on va continuer de l'analyser chaque semaine. Maintenant, l'économie américaine, c'est 80% la consommation des ménages. Vous regardez les ventes au détail aux États-Unis. Tant qu'on est au-dessus de zéro, c'est bon. Taux de croissance des ventes au détail, pas d'alerte. Pas d'alerte sur les ventes au détail. C'est la consommation des ménages. C'est 80% du PIB américain. Dans les hard data, vous avez la production industrielle. Alors, la production industrielle interroge. Ça fait des mois qu'elle est autour de zéro, mais regardez qu'est-ce qui se passe en récession. En récession, ça chute. Prenez la récession du Covid, on est en taux de croissance négatif. Donc, c'est un peu tendu. Récemment, d'ailleurs, il y a eu un rebond de la production industrielle en taux de croissance. Je dirais que tant qu'on ne constate pas d'effondrement sous la ligne de zéro, il n'y a pas de récession. Le secteur industriel manufacturier américain est en contraction ou est à l'équilibre, mais n'est pas en récession. Mais c'est à surveiller de près. C'est une statistique très importante et qui d'ailleurs qui est reprise dans un certain nombre de modèles de probabilité de récession. Une autre statistique qui est très importante, le nombre de faillites par mois aux États-Unis. Alors là, c'est pas beau. Je vous l'accorde. Vous avez sous les yeux l'évolution du nombre. Alors c'est trimestriel, hein. de faillite aux États-Unis, la tendance n'est pas bonne. On voit bien que les taux d'intérêt élevés commencent à peser sur l'économie. C'est pour ça qu'il y a effectivement maintenant urgence à baisser les taux. C'est n'importe quoi que la Fed n'ait pas pivoté au printemps dernier. Elle va pivoter à la rentrée. Maintenant, la question est de savoir, va-t-elle pivoter pour la bonne ou la mauvaise raison? Si vous pensez comme moi qu'elle va pivoter pour la bonne raison, la désinflation, il faut mieux. Du coup, c'est plutôt buy the dip. Par contre, si elle doit pivoter pour la mauvaise raison, qu'est la récession économique réelle, il ne faut pas buy the dip, parce qu'on aura un bear market. Des actifs risqués. Mais ça, la tendance n'est pas bonne. Le pourcentage de chômeurs au-dessus de 27 semaines. Voyez ce qui s'était passé. Le pourcentage de chômeurs au-dessus de 27 semaines lors de la crise financière, la récession de la crise financière ou la récession du Covid, ça s'envole verticalement. Là, il y a un début de hausse. Il n'y a pas encore début d'envolée verticale. Mais c'est à suivre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage et les inscriptions hebdomadaires continues au chômage. Alors ça, c'est mis à jour en fait. C'est une statistique qui est mise à jour chaque semaine, que je vais vous montrer ici, ce sera mieux. Et celui-là, donc, elle est suivie. Donc effectivement, la tendance n'est pas bonne. Dans les inscriptions hebdomadaires continues, la tendance est encore moins bonne. Nous sommes revenus sur des niveaux plus vus depuis 2021-2022. Alors, il faut surveiller ça. Et ce qui est bien avec cette statistique, c'est qu'elle est mise à jour chaque semaine. Là, c'est alerte orange. Vous avez l'enquête ADP, à partir de 100, sous 100, on commence à se poser des questions. Donc effectivement, là, il faut être prudent. Le rapport NFP, sous 100 000 créations nettes d'emplois, on s'interroge. Là, la tendance n'est pas bonne, on est à 114, alerte orange. Encore une fois, ce qui sera décisif, c'est la mise à jour du rapport NFP du mois d'août, qui sera mis à jour le premier vendredi du mois de septembre. Je pense que c'est maintenant la seule statistique que tout le monde attend. C'est peut-être même probablement devenu plus important que les traditionnelles statistiques d'inflation. Il y a maintenant vraiment un équilibre en termes d'importance entre emploi et inflation. C'est ce qui va rendre l'analyse passionnante. Le taux de séparation par État aux États-Unis. Vous prenez notamment la courbe rose totale États-Unis. Elle est encore très basse. Certains États plus industriels commencent à inquiéter. Ok, très bien. Mais, pour l'instant, au niveau des États-Unis, c'est bas, le taux de séparation. En récession, le taux de séparation, je parle de l'emploi, s'envole. Donc ça, ça peut être très intéressant à suivre, et notamment État par État. Alors, au final, ça nous donne au niveau des hard data, j'ai une proba de récession que de 35%. Maintenant, on va prendre les soft data. Les soft data, il s'agit essentiellement des indices PMI, qui sont très respectés par le marché. J'en parle souvent dans mes analyses, vous le savez. Donc le PMI, alors au-dessus de 50 expansion, sous 50 contraction, il faut regarder la tendance. PMI manufacturier est sous 50. Bon, le secteur manufacturier est neutre, de toute façon. Le plus important, c'est le PMI des services de l'ISM. La tendance n'est pas bonne. Et effectivement, le dernier PMI des manufacturiers de l'ISM qui a été publié, effectivement, il est à 46,8. Ça, c'est plutôt un indicateur de ralentissement économique. Par contre, n'oubliez pas, l'économie américaine est une économie de services. Regardez le PMI de services de Market et le PMI des services de l'ISM. Nous sommes toujours au-dessus de 50. Donc, tant que l'économie américaine est une économie de services à 80%. Tant que le PMI des services, que ce soit chez Market ou chez l'ISM, est au-dessus de 50, pas de récession du secteur des services. Et je vous ai montré tout à l'heure qu'au stade actuel, l'économie américaine ne détruisait pas d'emplois dans les services. Nous verrons le prochain rapport NFP. Alors qu'en pensent les entreprises, puisque c'est quand même elles qui créent les emplois, quelles sont les perspectives? Lorsque vous regardez les perspectives de bénéfices des entreprises, bon, essentiellement les stars de la tech, faut être honnête. Pour l'instant, bon, ça j'avoue, c'est un indicateur bidon qui est toujours en retard, toujours trop optimiste. Mais pour l'instant, les analystes financiers et même les chefs d'entreprise, lorsqu'on les interroge, ne mettent pas en avant d'alerte. Donc, un ami m'expliquait ça, que une des antennes régionales de la Fed avait contacté, je crois, de Californie, avait contacté les grands chefs d'entreprise de l'État pour savoir s'il se passait quelque chose, et ils ont tous dit non. Bon, pour l'instant, on reste sur une hausse de chômage conjoncturelle. Du côté des indicateurs soft data, j'ai moins de 39%, j'ai 39% de probabilité de récession. Maintenant, du côté des modèles combinatoires, qui sont des modèles de probabilité de récession, ça, je vous en ai déjà parlé, on va tous les reprendre. Alors, vous avez d'abord la règle de Sam, alerte orange, la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage, lorsqu'elle dépasse 0,50, on s'inquiète, elle est à 0,53. Bon, c'est un début d'alerte, effectivement. Là, vous avez en gris les phases de récession, et là, la règle de Sam. Okay, donc voilà, donc c'est. Voilà, on s'inquiète d'une récession lorsque la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage dépasse 0,50. Elle a atteint 0,53, c'est ça qui a stressé tout le monde. Et vous regardez d'autres modèles de probabilité de récession. Selon celui de la Réserve fédérale de Saint-Louis, la probabilité de récession est de 0,16. Et là-dedans, il y a beaucoup plus d'indicateurs macro qui sont utilisés, notamment les données commerciales, la production industrielle. Il y a beaucoup de choses. Ça donne une probabilité de récession de 0,16. Vous regardez le modèle de la Fed de Philadelphie, les US States Coincident Indexes. La grande majorité des États des États-Unis reste en expansion économique. La grande majorité. Et alors ensuite, vous avez le modèle du Conference Board, qui depuis très longtemps annonce la récession américaine, en comparant le taux de croissance du PIB américain réel en noir. Et là, vous avez en bleu le LEI, le Leading Indicator du Conference Board. Et même les analystes du Conference Board nous disent, même si ça a décroché, on n'anticipe pas de récession. Ils disent, ils envisagent une croissance économique américaine à zéro ou légèrement positive. Lorsque vous lisez leur propre analyse de leur propre indicateur. Pas de récession, mais une croissance qui ralentit. Même eux. C'est vrai que ça avait été particulièrement efficace, notamment dans la récession dot-com et dans la récession 2008. Ou même encore de la crise sanitaire. Et là, le LEI a même tendance à remonter. Mais bon, c'est sûr qu'il n'annonce pas une accélération économique. Il ne faut pas non plus exagérer. Ensuite, vous avez les données transversales, les taux d'intérêt, les matières premières et alors les chiffres de l'inflation. Alors, bon, ça sans rentrer dans les détails, parce que les chiffres de l'inflation, nous verrons. Alors là, je suis en vacances cette semaine, mais vous avez cette semaine la mise à jour, le 14 août, des chiffres de l'inflation selon le CPI. Moi, je pense qu'on aura des bonnes surprises. De toute façon, je vous refais un topo complet à mon retour le lundi 19 août. Le prix du pétrole, j'en parle tout le temps dans le Fast and Forex en vous expliquant qu'il était sous pression baissière ces dernières semaines, malgré les OPEC cuts, malgré la géopolitique, malgré la driving season. Donc effectivement, oui, on sait qu'il y a un ralentissement de la consommation en Occident. Donc, mais encore une fois, ralentissement de la croissance économique n'est pas récession économique. Mais le message qu'a donné le pétrole, en tout cas dans la première partie d'été, n'est pas un message d'accélération économique. C'est plutôt le contraire. Maintenant, les taux d'intérêt, eux, ont baissé. Ils partaient de très haut. Moi, la baisse des taux d'intérêt, je vous ai montré qu'il y avait depuis longtemps des signaux techniques baissiers. Il y a eu une vraie hausse des obligations, ça c'est très bien. Maintenant, ok, les taux d'intérêt baissent, mais ça peut très bien sanctionner la désinflation comme sanctionner la récession. Ou un mix des deux. Surtout si une partie de la désinflation est liée à un ralentissement économique. Au final, moi j'ai une probabilité de récession qui reste inférieure à 50%. Ça, ce sont des chiffres que j'actualise en permanence, que je vais continuer d'actualiser, et on verra bien. Moi je serai très humble face au marché, je vais prendre les chiffres comme ils arrivent. Et donc la prochaine étape, je vous le dis, c'est la mise à jour du rapport NFP. Ce sera vraiment très important en septembre. Les taux obligataires donnent des signaux techniques baissiers, haussiers pour les obligations. Donc ça, je vous confirme. Alors, il y a eu un rebond des taux à court terme qui est tout à fait logique parce que ils avaient bien baissé. Mais voilà, moi je reste vraiment. Voilà, on a rejoint cette zone support. Moi, rappelez-vous, hein, ici, comme j'ai insisté en vous disant qu'il y avait des signaux techniques baissiers. Je vous ai montré que sur le 10 ans américain, on avait un death cross similaire au test cross de 2018. Donc moi je pense qu'on est parti pour avoir au minimum un 10 ans américain qui va revenir ici en fin d'année, mais d'abord ça peut faire ça et ça. Donc là les obligations, n'oubliez pas corrélation inversée entre les taux d'intérêt obligataires et le prix des obligations, retrace un peu mais ça repartira à la hausse. Donc j'envisage un truc comme ça et ça. Et idem sur le 2 ans américain qui rejoint cette zone, un rebond et vous prenez en hebdomadaire. Voilà, ça c'est, rappelez-vous ce signal depuis le temps que je l'annonce. La cassure baissière sous le nuage weekly du système Ishimoku. Maintenant, on va faire un petit rebond et ça repartira à la baisse. Et d'ici la fin d'année, je pense qu'on va rejoindre ce niveau-là, des 3%. Alors, les indices boursiers, faut-il buy the dip or not buy the dip? Bon, en clair, vous buyez the dip, vous achetez les supports, si vous pensez que le pivot de la Fed va se faire pour la bonne raison, la désinflation, et vous n'achetez pas les supports, si vous pensez que la récession, que le pivot de la Fed se fera pour la mauvaise raison, la récession. Chacun se fait son opinion, moi j'apporte des arguments, faites ce que vous voulez après. Si vous penchez pour la récession, n'achetez pas les supports des indices boursiers. Si vous penchez pour la désinflation, oui, achetez les supports des indices boursiers. Alors, où en sont sur le plan technique des indices boursiers? Donc j'ai fait cet enregistrement avant de partir en vacances, hein, mais donc je vous montre quand même des gros niveaux hebdomadaires. Alors déjà, le SP500, moi on est toujours dans ma vague 4, voilà, hein, donc ça je suis content, ma vague 4. La vague 4 retrace entre 38,2 et 50%. Cette divergence baissière que je vous ai montrée il y a 2-3 semaines a vraiment bien marché. Moi, je pense que, voilà, dans cette zone, entre 4008 et 5000, on peut avoir un bottom par ici. Je pense pas qu'on ira en dessous. Pour aller en dessous, c'est une récession. Mais ce que je veux dire, c'est que si le pivot de la Fed se fait pour la bonne raison, tout ce que vous avez entre 4008 et 5000, ça s'achète. Si le pivot de la Fed se fait pour la bonne raison. Maintenant, les actions européennes, vous prenez l'Eurostock 50. Vous avez ici cette belle ligne de tendance. Sur l'Eurostock 50, regardez, moi je vois bien un truc comme ça. Tenir ce support, et d'ici la fin de l'année, remonter ici. Et donc, sur l'Eurostock 50, en weekly, vous avez cette belle ligne de tendance. Vous avez la même, ici, sur le DAX. Donc on peut peut-être encore un peu se faire peur. Mais globalement, ces marchés sont déjà sous des résistances, sur des supports qui sont pas... Ils sont pas ridicules. Et merci pour vos likes. Ça vous a plu? J'espère que oui. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, une super semaine. Je vais dire en pleine forme. Et on se retrouve lundi 19 août. Merci.